histoire.
Salut à vous toutes, salut à vous tous, c'est Doé qui vous raconte des histoires. Et depuis deux semaines, eh bien, je consacre ma petite émission à Émile Souvestre, un folkloriste, on va dire ça comme ça, qui au 19e siècle eh bien, est allé chercher des histoires, les a réécrites, tout ça, dans la Basse-Bretagne. Donc on y parlait beaucoup de morts, beaucoup de religions, et c'est ce qui est traduit un peu dans l'histoire, par exemple, qu'on rencontre aujourd'hui, les lavandières de nuit. Les Bretons sont les fils du péché, comme les autres, mais ils aiment leur mort. Ils ont pitié de ceux qui brûlent dans le purgatoire et ils tâchent de les racheter de feu d'épreuve. Chaque dimanche après l'office, ils prient pour leurs âmes sur la terre où pourrissent leurs pauvres corps. C'est dans le mois noir, surtout, qu'ils font acte de chrétiens. Quand la messagère de l'hiver arrive, chacun pense à ceux qui sont allés vers la justice de Dieu. On fait dire des messes à l'autel des morts, on leur allume des cierges, on les voue aux meilleurs saints, on va avec les petits-enfants sur leurs pierres et après vêpres, leur recteur sort de l'église pour bénir leur fosse. C'est aussi cette nuit-là que le Christ leur donne quelques soulagements et leur permet de revenir visiter les foyers où ils ont vécu. Les morts sont alors aussi nombreux dans les maisons des vivants que les feuilles jaunies dans les chemins creux. Voilà pourquoi les vrais chrétiens laissent la nappe mise et le feu allumé pour qu'ils puissent prendre leur repas et réchauffer leurs membres engourdis sous la froidure des cimetières. Mais s'il y a de vrais adorateurs de la Vierge et de son Fils, il y a aussi des enfants de l'ange noir qui oublient ceux qui ont été le plus près de leur cœur. Willem Postic était un de ceux-là. Son père avait quitté la vie sans avoir reçu l'absolution et comme dit le proverbe, Cadieu est toujours le fils de son père. Aussi n'était-il occupé que des plaisirs défendus dansant devant pendant l'office quand il le pouvait et trinquant pendant la messe avec les gueux, acheteurs de chevaux. Dieu n'avait pas manqué cependant de lui envoyer des avertissements. Il avait vu frapper du mauvais terre dans la même année sa mère, ses sœurs et sa femme, mais il s'était consolé de la mort des premiers en recueillant leur héritage et quant à Catel, il avait dit comme tous les veuves débauchés, « Si je n'ai plus de femme à moi, celles des autres sont mon droit. » Et il avait agi selon son dire. Le recteur avait eu beau l'avertir au prône qu'il était une pierre de scandale pour toute la paroisse. Loin de corriger Louis Lerme, cet avertissement public n'avait eu pour résultat que de faire renoncer à l'église comme il était facile de le prévoir. Car ce n'est pas en faisant claquer le fouet que l'on ramène un cheval échappé. Aussi se mit-il à vivre plus à son aise que jamais et sans plus de foi ni de loi qu'un renard de taillis.
Thank you.
Alors il se trouva dans ce temps-là que les beaux jours prirent fin et que la fête des morts arriva. Tous les gens baptisés mirent leurs habits de deuil et se rendirent à l'église afin de prier pour les trépassés. Mais Wilhelm, lui, revêtit ses habits de fête et prit la route du bourg voisin où se réunissaient des matelots sans religion et des filles sans honneur. Tout le temps que les autres employaient à soulager les âmes en peine, il le passa dans cet endroit buvant du vin de feu, jouant avec les matelots et chantant aux filles des rimes composées par les meuniers. Il continua ainsi presque jusqu'au milieu de la nuit et ne songea à s'en retourner que quand les autres se sentirent fatigués du péché. Lui, c'était un corps de fer pour le plaisir, et il quitta l'auberge le dernier, aussi ferme et aussi dispos qu'au moment où il était entré. Seulement, il avait le cœur chaud de boire. Il chantait tout haut, par les routes, des chansons que les plus hardis disent ordinairement tout bas. Il passait devant les croix sans baisser la voix et sans ôter son chapeau. Et il frappait à droite et à gauche les touffes de genêt avec son bâton sans avoir peur de blesser les âmes qui remplissaient ce jour-là les chemins. Il arriva ainsi à un carrefour où se présentaient deux routes conduisant à son village. La plus longue était gardée par la protection de Dieu, tandis que la plus courte était hantée par les morts. Bien des gens, en la traversant la nuit, avaient entendu des bruits et vu des choses dont on ne parlait que lorsqu'on était beaucoup et à portée du bénitier. Mais Wilhelm ne craignait que la soif et les filles laides. Il prit donc la route la plus courte, en faisant résonner ses galoches sur les cailloux du chemin. Cependant, la nuit était sans lune et sans étoiles. Les feuilles couraient emportées par le vent. Les sources coulaient tristement le long du coteau. Les buissons frissonnaient comme un homme qui a peur. Et au milieu de ce silence, les pas de Wilhelm retentissaient dans la nuit ainsi que des pas de géants. Mais rien ne l'épouvantait et il marchait toujours. En passant près du vieux manoir ruiné, il entendit la girouette qui lui disait « Retourne, retourne, retourne !» Wilhelm continua son chemin. Il arriva devant la cascade et l'eau murmura « Ne passe pas !» « Ne passe pas ! Ne passe pas !» Il posa son pied sur les pierres polies par la rivière et la traversa comme il atteignait un chêne vermoulu. Le vent qui sifflait dans les branches répéta « Reste ici ! Reste ici ! Reste ici !» Mais Wilhelm frappa en passant de son bâton l'arbre mort et pressa le pas. Enfin, il entra dans le vallon hanté. Minuit sonna à trois paroisses. Wilhelm se mit à siffler l'air de marionnique. Mais au moment où il sifflait le quatrième vers, il entendit le bruit d'une charrette non ferrée et il l'aperçut qui venait vers lui couverte d'un drap mortuaire. Wilhelm reconnut la charrette de la mort. Elle était traînée par six chevaux noirs et conduite par Lankou qui tenait un fouet de fer et répétait sans cesse « Détourne ou je retourne !» Wilhelm lui fit place mais sans se déconcerter. Que fais-tu donc ici, monsieur de Kernwen ? Lui demanda-t-il effrontément. Je prends et je surprends, répondit Lanco. Tu es donc un voleur et un traître, continua Wilhelm. Je suis le frappeur sans regard et sans égard, c'est-à-dire un sot et un brutal. Alors je ne m'étonne plus, mon mignon, que tu sois des quatre évêchés, car on peut appliquer tout le proverbe. Mais où vas-tu aujourd'hui pour être si pressé ? Je vais chercher Wilhelm Postic, répliqua le fantôme en passant. Le bon vivant éclata de rire et poussa plus loin. Comme il arrivait devant la petite haie des prunelliers qui conduit au lavoir, il aperçut deux femmes blanches qui étendaient du linge sur les buissons. « Sur ma vie, voilà des jeunes filles qui n'ont pas peur du serin, dit-il. Pourquoi êtes-vous si tard dans la prairie, mes petites colombes ?»« Nous lavons, nous séchons, nous cousons, » répondirent les deux femmes en même temps. « Quoi donc ?» demanda le jeune homme. « Le linceul du mort qui parle et marche encore. » « Un mort, pardieu, vous me direz son nom, Wilhelm Postic. » Le garçon rit plus fort que la première fois et descendit le petit chemin raboteux. Mais à mesure qu'il avançait, il entendait plus distinctement les coups de battoir des lavandières de nuit sur les pierres de la douaise. Et bientôt, il les aperçut elles-mêmes frappant leurs draps mortuaires et chantant le triste refrain. Si chrétien ne vient nous sauver, jusqu'au jugement faut laver, au clair de lune, au bruit du vent, sous la neige, le linceul blanc. Dès qu'elles aperçurent le joyeux compagnon, toutes accoururent avec de grands cris, en lui présentant leur sueur et lui criant de le tordre pour en faire sortir l'eau. Un petit service ne se refuse pas entre amis, répondit Wilhelm gaiement, mais chacune son tour, les belles lavandières, un homme n'a que deux mains pour tordre comme pour l'embrasser. Il déposa alors son bâton et prit le bout du drap mortuaire qui lui présentait une des mortes, en ayant soin de tordre du même côté qu'elle, car il avait appris des anciens que c'était le seul moyen de ne pas être brisé. Mais pendant que le linceul tournait ainsi, voilà que d'autres lavandières entourent Wilhelm, qui reconnut sa tante et sa femme, sa mère et ses sœurs, toutes criaient « Mille malheurs à qui laisse brûler les siens dans l'enfer, mille malheurs !» Et elles secouaient leurs cheveux épars en levant leur battoir blanc, et à toutes les douaises de la vallée, le long de toutes les haies, au haut de toutes les landes, des voix répétèrent « Mille malheurs, mille malheurs !» Wilhelm, hors de lui, sentit ses cheveux se dresser sur sa tête. Dans son trouble, il oublia la précaution prise jusqu'alors et se mit à tordre de l'autre côté. À l'instant même, le linceul serra ses mains comme un étau et il tomba broyé par les bras de fer de la lavandière. En passant au point du jour près de la douée, une jeune fille d'Anvik, nommée Fanti Carfur, s'arrêta pour mettre une branche de houx dans son pot de lait frais tiré et aperçut Wilhelm étendu sur les pierres bleues. Elle crut que le vin de feu l'avait abattu là et elle s'approcha avec un brin de jonc pour l'éveiller. Mais voyant qu'il restait immobile, l'enfant prit peur et s'en courut au village pour avertir. On vint avec le recteur, le sonneur de cloche et le notaire qui était maire de l'endroit. Le corps fut relevé et placé sur une charrette à bœufs, mais les cierges bénis que l'on voulut allumer s'éteignirent toujours, ce qui fit comprendre que Wilhelm Postic était acquis à la damnation. Aussi, son corps fut-il déposé en dehors du cimetière, sous l'échalier de pierre, là où s'arrêtent les chiens et les mécréants. Aujourd'hui, je vous ai raconté l'histoire des lavandières de nuit. Et oui, beaucoup de religieux hein, dans ces histoires bretonnes du 19e siècle, telles qu'elles étaient rapportées par Émile Souvestre, car c'est lui qui a inspiré mes lectures aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine avec d'autres histoires. Et ciao, bye bye. C'était Doé qui vous racontait toujours et encore des histoires.